Rencontre aujourd'hui avec Marc Delamotte, installé depuis un an dans sa maison de vacances à Saint-Jean-de-Monts. Tout jeune retraité, livre dans un récit édifiant à paraître le 17 février son histoire d'amour avec l'Afrique. Engagé dans la marine nationale pour découvrir ce continent qui le fascine, suit une carrière dans diverses ONG, dont l'UNICEF ou CARE International, qu'il dirige en Afrique de l'Ouest. Mais tout a commencé dans son enfance à Nantes.
Mon grand-père, qui a vécu 20-25 ans en Afrique pendant la colonisation, était donc installé à Nantes et avait d'innombrables photos qui, à l'époque, étaient en noir et blanc. Traditionnellement, tous les dimanches, on allait déjeuner chez eux. Et je me précipitais, parce que j'étais petit, dans leur bibliothèque pour voir toutes ces photos en noir et blanc de l'Afrique, des Africains. Et ça me fascinait, à tel point que c'est de là qu'est parti. Je me suis dit, je partirai en Afrique. Et c'est comme ça que tout a commencé, quoi.
Alors vous engagez même dans la marine avec cet objectif ?
Oui, tout à fait. 17 ans. J'étais pas brillant à l'école, ça m'intéressait pas spécialement. Mais je sais pas pourquoi, parce que depuis tout petit, je savais que je voulais explorer le monde, je voulais partir. Je voulais aller rencontrer les gens. Et à l'époque, le seul moyen que j'ai trouvé, c'était de rentrer dans la marine. Parce que je savais que dans la marine nationale, on pouvait aussi être affecté outre-mer, à l'étranger, etc. Et je me suis arrangé pour pouvoir être nommé en Afrique, et j'ai été nommé à Djibouti. Et de là, c'est de là que tout a été parti.
Suivent 45 ans d'expérience, dont 35 en Afrique, vous avez été aussi aux États-Unis, au Honduras. 35 ans en Afrique avec des postes très variés dans des ONG. Vous avez été jusqu'à diriger CARE International, donc une association de référence. Vous avez travaillé aussi pour les Nations Unies, pour l'UNICEF. Donc c'est un parcours d'engagement qui a suivi en fait. Donc vous êtes parti avec des rêves personnels et puis sur place, vous avez été touché, j'imagine, par des situations où vous avez voulu réagir.
Oui, au départ, on ne sait pas très bien où on va. Je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. Mais lorsque j'étais dans la marine nationale, j'ai eu la chance, à l'époque, j'étais le secrétaire particulier du commandant de la marine, qui, eux, les officiers, avaient une maison pour se reposer en Éthiopie. Parce que Djibouti, il faut savoir que Djibouti, c'était l'enfer sur Terre sur le plan climatique. Une chaleur, mais que vous n'imaginez pas. Et donc, de temps en temps, j'en profitais et je suis allé me reposer dans cette maison qu'ils avaient, qui était dans les montagnes de l'Éthiopie. Et c'est de là que je me rappelle très bien, j'étais assis au milieu d'une petite place à Harar. Harar, c'est une ville mythique en Éthiopie. Et j'étais en train d'observer les gens sur la place, en train de vendre leurs petites affaires, leurs petits légumes, etc. Et je me suis rappelé à ce moment-là ma toute enfance, ma jeunesse, lorsque j'étais tout petit. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et là, je me suis dit, c'est là que je veux être. C'est là que je veux revenir. C'est là que je veux travailler. Et c'est en voyant cette ambiance, ce climat, ces gens, et qui m'ont fasciné, parce que l'Éthiopie, c'est un pays fascinant. Donc c'est comme ça que est née cette vocation. Je me suis dit, je repartirai faire quelque chose en Afrique. Je savais pas très bien quoi, mais à partir de là, quand je suis sorti de la marine, j'ai fait 3 ans dans la marine, je me suis intéressé à l'Association française des volontaires du progrès, qui n'existe plus aujourd'hui vraiment. Aujourd'hui, c'est France Volontaire, c'est toute une agglomération d'ONG, d'associations de volontaires. Et à ce moment-là, en m'intéressant à cette organisation, j'ai postulé, etc. Et ils m'ont offert, après tout un stage à Paris, ils m'ont offert de partir comme volontaire du progrès au Sénégal. Et là, c'est de là que tout a vraiment commencé. Vous savez, que ce qui est intéressant, c'est qu'on part comme ça 2 ans comme volontaire, et il y en a qui s'arrêtent avant les 2 ans, il y en a qui continuent après les 2 ans, soit comme volontaire du progrès, soit ailleurs. Moi, j'ai continué ailleurs comme volontaire des Nations Unies pendant 2 ans encore. Et ça m'a permis, en 4 ans, de réaliser si c'était vraiment ça que je voulais faire. Parce que c'est pas évident. On croit que on va partir pour toute sa vie en Afrique. Non, il y en a beaucoup, beaucoup qui s'arrêtent avant les 2 ans ou avant les 4 ans. Et moi, ça a été déterminant. Je me suis dit, bon, c'est effectivement ce que je veux faire. Et c'est là que j'ai pris ma carrière en main pour continuer et repartir dans d'autres organisations et faire du travail vraiment à long terme, du travail soutenu.
Dans le titre de votre livre, un 17 ans de fascinantes rencontres sur les pistes africaines les plus reculées, ces fascinantes rencontres, c'est ça qui vous a aussi motivé ?
Oui, parce que dans les zones où je suis parti au départ, c'est la zone sahélienne. Et la zone sahélienne, c'est la zone comprise entre le Sénégal et le Tchad, qui est juste en dessous du Sahara, où on rencontre des gens incroyable. Des gens qui sont habitués à se déplacer et à recevoir. Il y a beaucoup de nomades, parmi les Peuls, les Touaregs, les Maures, etc., etc. Donc ces gens sont très très ouverts, très accueillants. Donc il nous arrive des aventures incroyables. Lorsqu'on travaille dans ces zones, on se déplace, soit moi à l'époque au départ, je me suis déplacé en camion avec mes chauffeurs, etc., pour transporter des vivres ou du matériel, etc. Et on se fait recevoir par ces gens dans le désert ou dans ces petits villages de sahéliens. Parfois, on dort sur la dune. Les Touaregs, lorsqu'ils reçoivent des gens, vont faire la fête toute la nuit. Je me rappelle de soirées, de nuits incroyables avec ces Touaregs et ces Peuls au son du tam-tam et sur la dune. Et c'est là que se passe plein de choses. C'est là où on comprend plein de choses. C'est là qu'on apprend plein de choses, où on discute, on se rend compte de ce qu'est la vie de ces gens en étant là-bas, sur place, avec ces gens dans les mêmes conditions.
Et c'est ce que vous nous racontez, ce que vous racontez aussi quelque part à vos filles. C'était un peu l'idée de ce projet au départ. C'était transmettre ces années d'expérience à vos filles.
Oui, au départ. Alors ça, c'est une anecdote parmi beaucoup, beaucoup d'autres dans le livre. J'aurais pu en raconter beaucoup plus. Au départ, je voulais que, ayant vécu ça, qu'il y ait une trace pour mes filles, qu'elles voient ce que j'ai pu vivre, parce qu'elles en ont vécu une partie. Elles m'ont accompagné aussi une partie de leur vie. Mais je voulais surtout qu'elles comprennent que c'était une passion et je voulais qu'elles vivent leur passion. Pour moi, il n'y a rien de plus important. Vivez votre passion. Sinon, vous allez rater votre vie. Et c'était un peu le but. Et puis après, je me suis dit, ça pourrait encourager des jeunes aussi à vivre leur passion. La semaine dernière, pour ne pas rien vous cacher, j'ai été accompagné une dame au service économique des pays de Mont. On est allé faire des présentations sur l'Afrique et sur les métiers en Afrique aux élèves de 4e au lycée de Saint-Jean-de-Mont. Et ça a été un peu mon message. Mon message, c'était vivez, c'est un métier de passion, vivez votre passion. Et donc, je leur expliquais ce que ça veut dire, quel genre de métier on peut faire en Afrique, etc. Et ce que ça veut dire pour eux, et en essayant de susciter quelques intérêts parmi ces jeunes qui, bien souvent, ne sont pas sortis de Saint-Jean-de-Mont ou des alentours de Saint-Jean-de-Mont. Les professeurs me disaient que parmi eux, certains ne sont même pas allés à Nantes. Donc, il est important que des gens comme nous puissent leur raconter toutes ces histoires, et qu'ils entendent qu'il y a d'autres choses et qu'il y a d'autres possibilités, d'autres opportunités. Et peut-être créer des intérêts. Et effectivement, à la sortie, il y a quelques jeunes qui sont venus me voir en disant c'est génial, moi j'aimerais vraiment aller voir ça, etc. Il y en a quelques-uns qui se sont exprimés là-dessus.
J'imagine votre émotion. Donc votre livre sort dans quelques jours, hein. Marc Delamotte, aux éditions Amalthée, avec, j'imagine, l'envie de faire découvrir aussi ces personnalités fascinantes, ces peuples fascinants. Si je vous demande une anecdote qui pourrait sortir un petit peu du lot, la première qui vous vient en tête d'une rencontre particulière.
Oui, il y en a des tonnes, mais je vous en raconterai une qui pourrait paraître banale, mais qui a été très, très importante pour moi. Un jour, un de mes voisins, d'ailleurs là où j'habitais, était médecin au Tchad. Ça se passe au Tchad. Et ce voisin avait eu dans une vie précédente, parce qu'il était marié avec 4 ou 5 enfants, et dans une vie précédente, il avait eu une femme du nord, donc dans la région du Kanem, au nord du Tchad, au nord de N'Djamena, et avec laquelle il avait eu un enfant. Et cette femme, vous savez, à l'époque, c'était la guerre avec la Libye, et cette femme s'est fait enlever par les Libyens, comme il faisait souvent. Et un jour, ce monsieur, ce médecin, est allé voir mon patron, le responsable de l'UNICEF, en disant il sait son fils, qui avait à l'époque dans les 2-3 ans, vivait avec sa grand-mère dans les dunes du Kanem, près de Mao, un petit village qui s'appelle Mao, et il veut le récupérer, son enfant, parce qu'il veut lui offrir une chance de pouvoir aller à l'école, etc. etc. Alors c'était évidemment une mission très très spéciale et difficile pour moi. Et on est parti avec mon chauffeur pendant qu'on avait une mission à faire là-haut. Et on a pris le temps d'aller rechercher cet enfant. On savait qu'il était dans une zone particulière. Et donc, de dune en dune, on est parti avec le 4x4. On a rencontré les gens et on avait le nom de la dame, la vieille dame, la grand-mère. Et petit à petit, après, je ne sais pas, 3, 4 heures, 5 heures de piste, quand je dis de piste, c'est même pas des pistes, c'est dans le désert, vraiment. On est tombé sur une petite case, mais vraiment, vous n'imaginez pas, c'est tout juste assez grand pour une personne et demie sur cette dune perdue, etc. On se demandait ce qu'elle faisait là. On est tombé sur cette dame et cet enfant. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que cette femme, qui avait, je ne sais pas quel âge, 80, 85 ans, me regarde dans les yeux, les larmes aux yeux, mais ne m'a rien dit. Et m'a tendu son enfant et elle a compris que je venais chercher l'enfant et s'est aperçue. Alors j'ai fait traduire après par les gens qui m'entouraient. Voilà, voilà pourquoi je suis là, etc., etc. Et elle a compris. Elle a compris que c'était pour l'enfant une opportunité qu'elle ne pourrait pas s'en occuper éternellement. Donc elle m'a remis son enfant. Donc c'était un moment très très fort sur le plan émotion.
C'est encore fort.
Oui, après toutes ces années. Et donc j'ai pris cet enfant avec moi. On a passé la première nuit à Mao même, parce qu'il était trop tard pour rentrer à N'Djamena. Et de là, il est resté avec moi, il a dormi avec moi. Il me tenait, il m'agrippait par les bras, etc. On est arrivé à la maison avec ma femme à l'époque qui était à N'Djamena, a vu cet enfant, etc. Puis moi, j'avais pas le courage de l'emmener directement chez son père à N'Djamena même, donc à 1 kilomètre de chez moi. Et on a gardé cet enfant, on s'en occupait, on l'a lavé, on s'est dit bon, on va l'amener demain, le lendemain matin. Et le lendemain matin, je l'ai ramené chez le père. Le père était pas là, il y avait la maman. Et heureusement, la maman était là avec les enfants. Ils l'ont accueilli, mais formidablement bien, avec des cris de joie. Enfin, ils l'ont accueilli, tout leur enfant. Et ça, c'est ce qui m'a fait dire que c'était la bonne décision. Mais par contre, pour me séparer de l'enfant, l'enfant criait, ne voulait pas me lâcher. Moi qui le connaissais que depuis 2 ou 3 jours. Et donc, je l'ai arraché de moi pour le rendre à sa nouvelle maman. Et voilà, c'est des événements comme ça qui nous arrivent aussi. Et qui ne sont pas du tout courants. Et c'en est un parmi d'autres. Et voilà, c'est une des rencontres fascinantes qu'on peut faire dans ce désert, dans ces zones-là, qui méritent que je voulais raconter.
Merci beaucoup de ce témoignage, Marc Delamotte. Donc je rappelle, 17 ans de fascinantes rencontres sur les pistes africaines les plus reculées aux éditions Amalthée. Le livre sort dans quelques jours, le 17 février.